Je pense que la musique capverdienne, ce n'est pas une musique triste, c'est une musique mélancolique. Comme nous, comme quelqu'un qui est toujours devant la mer et qui voit l'horizon, qui voit toujours le soleil, le ciel ouvert, mais qui n'a rien à manger quelquefois, qui voit que l'épouse, le mari, des amis qui partent à l'étranger pour aller travailler 10 ans, 15 ans, ou des autres ne retournent jamais. C'est la nostalgie, c'est la mélancolie, mais elle n'est pas triste. Quelquefois, la musique capverdienne nous fait pleurer, mais je pense qu'on pleure aussi pour la beauté. Mais la conception mélodique capverdienne, toujours dans la tonalité mineure, ça c'est pas pour la tristesse, mais c'est pour toucher quelqu'un profondément. Mais ce sont des sentiments des îles.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardot.
Une page d'histoire mise en récit par un texte des archives et des musiques choisies chaque dimanche à 15h sur France Culture. Voici Jukebox. Voyage aujourd'hui parmi la mer, les vents et le soleil dans l'archipel du Cap-Vert. Au large du Sénégal, cette dizaine d'îles, intégrées très tôt à l'Empire portugais, avaient tenté de conjurer le mauvais sort, les faibles ressources naturelles et la traite esclavagiste en développant un important folklore musical, plus ou moins mélancolique, mais souvent réprimé par les autorités portugaises. Au début des années 60, une révolte avait éclaté, aboutissant à l'indépendance de l'archipel en 75, mais l'instabilité politique et les difficultés économiques n'avaient su endiguer les vagues d'exil, notamment de musiciens qui, à distance, modernisant les musiques traditionnelles à l'aide de synthétiseurs, gardaient à l'œil le destin chaotique et triste de leur terre d'origine. Aujourd'hui, le Cap-Vert, au gré des vents. Ce sont des escarpements rocheux balayés par l'estada, ce terrible vent d'est qui sature parfois l'air d'une couleur ocre, et des chèvres en liberté qui, faute de racines abroutées, en sont réduites à fouiller les pierres pour tromper leur faim. Ce sont deux types qui aimeraient envoyer en l'air les convenances et l'affabilité de mise pour en venir aux mains et régler un vieux différend. Ce sont les étals des marchés qui sentent le poisson séché, le manioc, le chou, les haricots et le lait de coco. Ce sont des groupes de jeunes qui, à la saison des pluies, se ruent vers les cascades de Santiago, écoutent de la musique, rient fort et boivent le grog, le rhum local, en sautant dans les rivières gonflées. C'est une grand-mère rongée d'inquiétude qui se signe et invoque Dieu chaque minute pour que revienne enfin à la maison son petit-fils, tandis que croisent dans les rues de terre les voitures de la police politique. C'est l'océan qui frappe partout à la porte, cette prison sans barreaux sur laquelle on porte régulièrement son regard, guettant les navires à l'horizon. C'est un billet de 2000 escudos sur lequel on décidera un jour d'imprimer les vers créoles d'un célèbre poème d'amour. C'est la musique partout, à chaque coin des rues.
Yeah.
Odio sem valor, la haine sans valeur, dénonciation des discriminations raciales et des violences policières, interprété en 1979 par le chanteur et musicien capverdien Pedrinho, alors âgé de 18 ans et qui venait de s'exiler à Lisbonne. C'est qu'au Cap-Vert, où l'existence depuis toujours était semée d'embûches, la chance ne souriait qu'aux courageux ou aux audacieux qui n'hésitaient pas à aller se risquer ailleurs. Baigné par l'Atlantique, à 500 km au large des côtes sénégalaises, Cabo Verde, le Cap Vert, porte un nom bien curieux. D'abord, à cette distance du continent, ce n'est en rien un cap, constitué qu'il est d'une dizaine d'îles volcaniques, éparpillées en fer à cheval. Et, s'il est vert, ce n'est que 3 mois dans l'année, d'août à octobre. Le reste du temps, ces îles caillouteuses n'offrent qu'une chaleur aride, battue par les vents d'est. Inhabité lorsque des marins génois et portugais y avaient accosté au XVe siècle, ces confettis attirent rapidement l'intérêt de la couronne portugaise pour leur intérêt stratégique. Escale idéale vers l'Afrique et l'Amérique du Sud, le Cap-Vert devient une plaque tournante du commerce triangulaire. Les siècles suivants, des dizaines de milliers d'esclaves venus du Sénégal, du Mali ou de Guinée y transitent en chemin vers le Brésil, où ils débarquent pour travailler dans de petites plantations de coton, de canne à sucre, de café ou de tabac, aux mains des colons portugais. Toutefois, les sécheresses et les sols, majoritairement impropres à l'agriculture, font que les maîtres blancs affranchissent de plus en plus leurs esclaves, incapables qu'ils sont de les nourrir. Réduits à la misère, ces colons se mettront bientôt à fréquenter les Africains et le métissage deviendra la norme. S'y forge alors le criollo, un créole, parfois très différent selon les îles, qui emprunte sa syntaxe et de nombreux mots au portugais, y mêlant d'autres mots des langues mandingues ou wolof. Même si, comme la plupart des autres créoles, celui du Cap-Vert reste essentiellement oral, or rien ne s'envole mieux que les mots. Il faudra d'ailleurs attendre le XXe siècle pour que s'éveille sur place une véritable conscience nationale. En attendant, on trime à faire fructifier les rares terres cultivables et on soigne sa mélancolie en musique, tandis que les derniers vestiges de la haute société portugaise se réfugient dans les danses européennes, mazurka, polka ou valse. Les femmes africaines chantent et dansent en cercle le batuque. Et puis il y a la morna, née au XIXe siècle, sans doute de la douleur de voir défiler tant d'enchaînés, souffler tant de vents salés et de voir s'éloigner tant de compatriotes exilés vers d'autres continents, sans même parler des douleurs du cœur, comme dans la chanson suivante.
Pedir Deus para antes de morrer, deixa na minha despedida onde a voz hoje chaninha e que a lua e que a estrela e que a perla de mar. E que a feitice, e que a saudade, e madrugada na vos olhos, e só vos olhos, xaninha. eca lua, eca strela, eca perla di mar, eca feitiço, eca saudade, e madrugada na voz de e só voz de chaninha. Estrela, e capela di mar, e cafeti, se ca soda, e madrugada na bozoju, e so bozoju chaninha.
Tes yeux, Tsandinia, ont la douceur du miel, ils ont la magie du soleil qui se couche dans la mer bleue. Je demande à Dieu qu'avant de mourir, on me laisse comme un adieu voir tes yeux. Ce n'est pas la lune, ni les étoiles, ni des perles dans la mer, ce n'est pas un sort, ce n'est pas un désir, c'est l'aube dans tes yeux, c'est seulement tes yeux. Le poète et chanteur Amandio Cabral pour cette Tsandinia, enregistrée en 1960, et exemple de Morna. Accompagné à la guitare, au violon et au cavaquinho, ce cousin portugais du ukulélé, la morna était née vers 1870 sur l'île de Boa Vista, d'abord sous une forme sautillante, voire ironique. Elle s'était ensuite répandue dans les années 20 sur l'île de Brava, où le grand poète et compositeur Eugenio Tavares lui avait donné une teinte plus romantique. Et puis à São Vicente, où l'on se met à la danser. Incarnant une sorte de raffinement qui n'est pas sans rappeler celui du fado, elle est tolérée par l'Estado Novo, la dictature portugaise salazariste en place depuis 1933. Déchirante et nostalgique, avec ses paroles en créole chantant l'amour perdu, le deuil, la mélancolie, les douleurs de l'exil et l'attachement à la mère patrie, la morna deviendra rapidement l'incarnation de l'âme capverdienne. Archive le musicien Vasco Martins dans les chroniques sauvages de Robert Arnaud, jadis sur France Inter.
Le peuple capverdien est un peuple très nostalgique et très triste aussi, même si les gens trouvent que c'est un peuple de la joie, qui aime la fête. C'est vrai qu'ils aiment la fête, nous on aime la fête, mais c'est toujours une manière de cacher la mélancolie qui vient peut-être de l'ambiance physique du caver, qui vient de 500 ans d'histoire, enfin triste, c'est vrai, parce que notre histoire c'est une histoire de famine, c'est une histoire d'économie pas très à l'aise. Et c'est dans la morna que tout ça va tomber. La morna, on joue surtout au soir. C'est une musique de la nuit.
On a ilha de Madeira, on assiste un pé de bo, dois amiguinhos que finha. No arco viteira, ou na ilha de Madeira, um assisti um pedibó, dois amigos em carfinha, por causa do arco viteira, já dá um está a dizer, já matou de está a dizer, já reparti para cada chete, já dá um está a dizer, já matou de está a dizer, já reparti para cada chete, pouca vergonha das raparigas, já está bom de cabana nesse terra, está com muito deixa ignorante, obrigado. tá morrer na guerra, porque a vergonha das raparigas já tá bom de acabar nesse terra, tá para mudo deixa ignorante. A brigada tá morrer na guerra, já dá um estadzê, já matou o estadzê, jora é para ti, para cada chatice, já dá um estadzê, já matou o estadzê, jora é para ti, para cada chatice. Ou na ilha de madeira, um assisti um pediboi, dois amigos em carvinha, por causa do arco viteira. Ou na ilha de madeira, um assisti um pediboi, dois amigos em carvinha, por causa do arco viteira. Já dá um estadzê, já matou o estadzê, jora é para ti, para cada chatice. Já dá um estadzê, já matou o estadzê, jora é para ti, para cada chatice. De madeira, um assisti um pediboi, dois amigos em carvinha, por causa do arco viteira. Ou na ilha de madeira, um assisti um pediboi, dois amigos em carvinha, por causa do arco viteira. Já dá um estadzê, já matou o estadzê, jora é para ti, para cada chatice. Já dá um estadzê, já matou o estadzê, jora é para ti, para cada chatice. Cada um está a dizer, já matou está a dizer, já é para ti, para cada chatice. Cada um está a dizer, já matou está a dizer, já é para ti, para cada chatice.
On devrait cesser dans ce pays de répandre autant d'ignorance et de se disputer à en mourir. Pediboi, la dispute enregistrée au début des années 60 par la toute jeune Cesaria Evora, née dans la ville portuaire de Mindelo, dans une famille nombreuse et pauvre et qui, après la mort de son père, avait été placée dans un orphelinat. Par la suite, la rencontre d'un marin et guitariste l'avait initiée à la musique capverdienne avant qu'à 20 ans, elle ne croise la route d'un autre musicien, le guitariste Gregorio Goncalves, qu'il avait fait chanter à la radio locale, sa notoriété explosant bientôt sur toutes les îles. En 1967, le clarinettiste Luis Moraes compose Boas Festas, joyeuse fête, qui deviendra l'un des hymnes préférés des Capverdiens à la période de Noël, d'après un autre rythme typiquement capverdien, la coladeira. La coladeira qui était apparue dans les années 40 à Mindelo, autoproclamée capitale culturelle de l'archipel, en tout cas son principal port, où débarquaient nombre de navires européens ou brésiliens, et où se croisaient marins, désireux de se payer du bon temps, musiciens, prostituées, vendeurs de rhum ou commerçants. Dans cette ville de plaisir, les couples veulent s'amuser et réclament de plus en plus souvent aux orchestres de pouvoir danser sur des mornas plus rapides, moins élégantes et plus sensuelles. Le genre est notamment popularisé par Gregorio Goncalves, qu'on évoquait plus tôt aux côtés de Cesaria Evora. Du côté des paroles, ici, foin de mélancolie, les paroles abordent les femmes, évidemment, mais aussi des sujets contemporains traités avec dérision et sarcasme. La sauce de la coladeira prend rapidement, c'est qu'il faut bien conjurer le destin, et notamment la faiblesse des ressources naturelles. Le Cap-Vert et son climat sahélien connaissent alors d'effroyables crises alimentaires. Au XIXe siècle, on en avait recensé 19. La plus terrible des famines, en 47, a fait 30 000 morts, soit le tiers de la population totale. Le silence s'emparait de tout, écrivait le romancier Luis Romano. Les fermes, les villages, les maisons dispersées qui rappelaient les noms de ceux qui étaient partis ou bien restés, enterrés par-ci par-là, et ceux que les oiseaux s'acharnaient à déterrer. Malgré le sol sec et caillouteux, malgré les sécheresses qui brûlent les maïs et ou les plants de haricots, les paysans capverdiens doivent, sous peine d'expulsion, payer le loyer de leur lopin de terre à leurs propriétaires portugais, les morgados, la moitié d'une récolte, quitte à devoir... Pour ce faire, vendre ce qui leur reste, l'âne grâce auquel on va tirer de l'eau à la citerne, ou bien le bœuf qui sarcle les champs, comme dans la chanson suivante, Jonzinho Cabral, une chanson populaire de la fin des années 50 que reprendra quelques années plus tard le groupe Os Tubarões.
baña suana que estaba la preguntaño flipi que testimonia preguntaño toni que sin un papel y a quien te san un pasan mal tan mal un simiaña millo un simiaña piso un popo un golón un bota patita chuba cabey nada cata para que te impalí varias come baño borga tu que tu mano chon un flama mai que ven de poi t'apaga baño borga tu que tu mano chon un flama mai que ven de poi t'apaga. Josinho Cabral vem larichar a fazenda. Josinho Cabral vai mais para a fêmea. Ali o ouro vai prata. A mãe e Maria também depois da paga. Maria e Josinho é por na cadeia. Por na cadeia para morrer quebra brin. Oi, 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 oi. A mãe e Maria também depois da paga. Maria anda bem depois da paga. Amor e Maria anda bem depois da paga. Amor e Maria anda bem depois da paga. Amor e Maria anda bem depois da paga.
Exemple de Coladera, ce Johnzinho Cabral par le groupe Os Tubarões.
M'intenso da Guiné-Bissau, nessa por causa minha creio. M'intenso da Guiné-Bissau, nessa por causa minha creio.
Les difficultés économiques amènent donc nombre de Cap-Verdiens à aller trouver à l'étranger un avenir meilleur. Au 19e siècle déjà, certains courageux s'étaient engagés à bord de baleiniers américains s'installant par la suite aux États-Unis. Bientôt, pour subvenir aux besoins de leur famille, des artistes s'envoleront, comme le clarinettiste Luis Moraes, qui, avec d'autres, formera en 1965 à Rotterdam, les Pays-Bas accueillant très tôt une importante diaspora, le mythique groupe A Voz de Cabo Verde, la voix du Cap-Vert. Le chanteur du groupe, Bana, a lui quitté l'archipel clandestinement dans les soutes d'un cargo en partance pour Dakar. Plusieurs des membres de Voz de Cabo Verde, ainsi qu'une petite maison de production discographique également créée à Rotterdam, s'impliqueront ensuite dans la lutte de libération nationale. Au cœur de cette lutte indépendantiste, on trouve le personnage central de l'histoire moderne du Cap-Vert, le héros national, un certain Amilcar Cabral. né en Guinée-Bissau de parents capverdiens, lui aussi avait choisi d'émigrer, partant dès 1945 étudier l'agronomie à Lisbonne. Sur place, il s'était lié d'amitié avec des intellectuels venus d'autres colonies portugaises d'Afrique, Cap-Vert, Angola, Mozambique, São Tomé et Principe ou Guinée-Bissau. En 1952, Amilcar Cabral était revenu transformé avec l'intention de promouvoir la nécessité de réafricaniser les esprits par la culture afin de lutter contre la domination coloniale portugaise. Lisbonne, pour tenter d'émousser le nationalisme croissant, venait de changer le statut du Cap-Vert d'une colonie envers une province d'outre-mer. Mais le mouvement était en marche. En 1956, avec d'autres Capverdiens et des Guinéens, Cabral fonde le Parti africain clandestin pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Le mouvement se fait pacifiste, mais la brutale répression en 1959 d'une grève dans le port de Pidjiguiti en Guinée-Bissau tend les choses et pose Amilcar Cabral en leader et en véritable diplomate. Ainsi, en 1963, à Addis Abeba, où vient de se créer l'Organisation de l'Unité africaine.
Addis Abeba vient de prouver que nos frères africains de tous les pays indépendants sentent et souffrent avec nous notre situation. S'il y avait quelques doutes dans l'esprit de quelques nationalistes, les résultats de la conférence auront effacé ces doutes complètement. Nous espérons que les résolutions prises, les décisions prises seront menées ou mises en pratique. Et que bientôt, nous pourrons, avec l'aide de nos frères africains, éliminer complètement la domination coloniale dans nos pays, soit dans les pays dominés par le Portugal, soit dans les autres encore sous domination.
À 15h30 sur France Culture, aujourd'hui, Jukebox voyage au Cap-Vert.
Brinca, sabe, só nós sou. Passa, sabe, só nós sou. Dança, sabe, só nós sou. Que do grupo sai codaiô. Brinca, sabe, só nós sou. Passa, sabe, só nós sou. Dança, sabe, só nós sou. Que do grupo sai codaiô. Sai te canta, entra ali. Queix que tem nada a fazer ali. Dentre, só nós sou. Que do grupo sai codaiô. Sai te canta, entra ali. Queix que tem nada a fazer ali. Dentre, só nós sou. Que do grupo sai codaiô. Sai co. Psycho, 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 dayo. Psycho, 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 dayo. Psycho, 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 dayo. Brinca, sabe, só nós sou. Passa, sabe, só nós sou. Dança, sabe, só nós sou. Que do grupo psycho, dayo. Brinca, sabe, só nós sou. Passa, sabe, só nós sou. Dança, sabe, só nós sou. Que do grupo psycho, dayo. Sai te canta, entra ali. Queix que tem nada a fazer ali. Entre só nós sou que do grupo sai codaiô. Sai te canta, entra ali. Queix que tem nada a fazer ali. Entre só nós sou que do grupo sai codaiô. Sai co, sai co, sai co, sai codaiô. Sai co, sai co, sai co, sai codaiô. Sai co, sai co, sai co, sai codaiô. Dança, sabe, só nós sou. Que do grupo sai codaiô. Brinca, sabe, só nós sou. Massa, sabe, só nós sou. Dança, sabe, só nós sou. Que do grupo sai codaiô. Sai te canta, entra ali. Queix que tem nada a fazer ali. Dentre só nós sou. Que do grupo sai codaiô. Sai te canta, entra ali. Queix que tem nada a fazer ali. Dentre só nós sou. Que do grupo sai codaiô. Sai co, sai co, sai co, sai codaiô. Sai co.
Nous seuls savons nous amuser, passer du bon temps, danser, nous, du groupe Psycho Dayo, interprété en 66 par le Ritmo Caboverdiano sur un rythme de coladera. Ce Psycho Dayo désignant un groupe du carnaval de Mindelo, le plus spectaculaire du pays. Pourtant, malgré chaque année l'insouciance chaloupée des danseurs en costume de plumes ou de paillettes, la situation allait bientôt prendre un tour plus préoccupant. Tant Sandy, Camilcar Cabral incite les artistes et les intellectuels capverdiens de la diaspora à s'engager dans la résistance culturelle, littéraire ou musicale. En 63, une lutte armée est lancée contre les Portugais en vue d'obtenir l'indépendance du Cap-Vert, mais aussi de la Guinée-Bissau. L'archipel capverdien, éclaté, étant peu propice à un soulèvement armé, les combats ont lieu en Guinée. Les actes de sabotage se transforment en guérilla. 10 000 soldats du parti indépendantiste entraînés et armés par des pays amis, Mauritanie, Maroc, Sénégal, URSS ou Cuba, y affrontent 35 000 soldats portugais. En 72, les rebelles, conduits par leur commandant, Amilcar Cabral, coiffé de son bonnet de laine, finissent par contrôler une grande partie de la Guinée. Mais parmi eux, des dissensions se font jour et en janvier 73, Cabral est assassiné près de son domicile à Conakry, sans doute par les services secrets portugais. Cette disparition porte un coup fatal à leur idéal de lutte commune entre les deux entités.
Moi, je crois que Cabral se sentait d'abord un Capverdien qui avait épousé une cause qui était commune aux îles et aux pays continentaux. Je crois qu'il était convaincu d'être, et d'ailleurs il l'était, un intellectuel en mesure de regarder les divisions qui se produisaient à l'intérieur du pays avec une certaine hauteur, comme quelqu'un qui, justement, qui venait d'ailleurs et qui donc était en mesure de faire la médiation qui était indispensable. Mais on rentre dans un discours qui finalement a perdu Cabral, parce que c'est justement sur cet équivoque sur lui-même qu'il a perdu sa vie, parce qu'il était convaincu d'être l'homme au-dessus des partis, tandis qu'il a toujours été vu par les autres et par une forte composante de son même parti comme un homme qui venait justement du Cap-Vert et que donc n'était pas un Guinéen.
L'année suivant, l'assassinat d'Amilcar Cabral, pourtant tout s'accélère. Au printemps 74, la révolution des œillets fait tomber à Lisbonne la dictature de Salazar et permet l'émancipation des colonies. Le 10 septembre, c'est la Guinée-Bissau qui proclame son indépendance et le 5 juillet 75, c'est au tour du Cap-Vert.
Flor, pionero de no partido, a leva deposita no front. Pioneiro de no partido, da leva deposita no front.
Publié en 76, le chanteur Nobalta et le groupe Black Power pour ce Cinco de Julio, célébration du 5 juillet 75, le jour où le Cap-Vert avait largué les amarres vis-à-vis de son ancienne tutelle coloniale. Avec la fin de la mainmise des Portugais, tout reste à faire. 40% à peine des Cap-Verdiens savent lire et écrire. L'école primaire devient alors obligatoire. Des cours pour adultes sont montés. On édite des manuels d'alphabétisation en créole. Musicalement aussi, la disparition du colon ouvre les vannes. On assiste par exemple au retour en force d'un genre musical jusqu'alors méprisé, voire muselé, notamment par l'église catholique, le funana. Une musique et une danse qui tirait son nom d'un mot portugais désignant la poussière soulevée par les danseurs dans les rues en terre battue. Le funanha était né au tout début du XXe siècle lorsque les Portugais avaient importé, sans doute pour propager leur culture, la gaita au son de ce petit accordéon diatonique mêlé au son du ferrinho, une barre de métal frottée contre un couteau. Le funanha s'était développé comme la poudre devenant la danse des milieux paysans. Mais ces paroles simplistes chantées en créole, souvent séditieuses et ses ondulations suggestives étaient tant redoutées par les Portugais puritains que jusqu'à l'indépendance, il était interdit de le jouer et de le danser publiquement, du moins après 20 heures, au risque de voir débarquer la terrible police politique portugaise qui confisque les instruments, arrête les musiciens et les torture. Dès lors, le funanha, transmis oralement, n'était joué que clandestinement, dans les terres, à l'abri des oreilles ou lors de fêtes privées. Avec l'indépendance, donc, une jeune génération de musiciens capverdiens en exil s'attelle à le revaloriser tout en le modernisant, comme Cachas du groupe Bulimundo qui revient sur place collecter les vieilles compositions. Il y a aussi Ferro Gaita qu'on écoute en ce moment, ou bien à partir de 79, le groupe Tulipa Negra qui fait du funanha la bande-son jubilatoire des années post-indépendance.
Corpo limpo, unta bota logo, unta me massa. Me quem o John, corpo limpo, unta bota logo, unta me massa. Sabe um tachadinha, anda pega na cacai pra não se funaná. Sabe um tachadinha, anda pega na cacai pra não se funaná. Chadinha, funana na rodinha, funana la saradinha, me abraço tudo pra corpo limpo. Funana na chadinha, funana na rodinha, funana la saradinha, me abraço tudo pra corpo limpo. Oi mamá, minha mãe dá bingo dado. Oi mamá, da pinga chabucha. Oi mamá, minha mãe dá bingo d'água. Oi mamá, da pinga chapucha. Oi corpo limpo, o que lembra que tinha tempo. Caramba, chiquiro lá dentro freira. Oi corpo limpo, o que lembra que tinha tempo. Caramba, chiquiro lá dentro freira.
sozinha Mendi, sorari tipo naná, sorari nhangirina, mas sorari mas sem irari. Sorari com mazinha Mendi, sorari tipo naná, sorari nhangirina, sorari sem irari.
Coração da santa, esse novo catalejá. Ui, o que tá manta. Coração da santa, esse novo catalejá. Ui, o que tá manta. Mi corpo limpo, o que toma sol e lambique. O que tá puto pra cima cavalo. Mi corpo limpo, o que toma sol e lambique. O que tá puto pra cima cavalo. Ui!
...1984, exemple de Funana modernisé, ce corpo limpo par le groupe Tulipa Negra. À partir de 1976, le nouveau pouvoir nationalise les banques, les ports, les aéroports et les compagnies de transport. De nouveaux groupes Bulimundo ou bien le Cabo Verde Band derrière le percussionniste et chanteur Luis da Silva qu'on entend en ce moment investissent les boîtes de nuit de la capitale Praia où se retrouve la jeunesse. Pour autant, après les espoirs nés lors de l'indépendance, la situation politique reste incertaine. Car bien que le Cap-Vert et la Guinée aient accédé séparément à l'indépendance, curieusement, le pouvoir y est exercé par le même parti. Le vice-président Aristides Pereira est devenu le chef d'État au Cap-Vert, tandis que Luis Cabral, le demi-frère de feu Amilcar, préside lui aux destinées de la Guinée-Bissau. Les crispations vont aller croissantes entre les deux pays, les Guinéens reprochant à Luis Cabral et aux Cap-Verdiens de dominer le parti. En novembre 80, un coup d'état militaire remplace Luis Cabral et le rêve d'un destin commun entre le Cap-Vert et la Guinée-Bissau s'éteint. Au Cap-Vert se crée un nouveau parti, exclusivement centré sur l'archipel et qui se trouve d'ailleurs le seul autorisé. Une politique autoritaire d'inspiration marxiste est mise en place. Habituel lieu de concert, de nombreux bars et cafés ferment. Voyant ses revenus fondre, Cesária Évora décide de mettre un terme à sa carrière, ce qu'elle fera pendant presque 10 ans. Témoignage du musicien Théophile Chantré au micro de Soro Solo sur France Inter.
Maintenant, on dit que c'était un mal nécessaire pour organiser le pays. Ça a duré 15 ans. Et c'est vrai, bon, il y avait une absence de liberté, notamment d'expression. Il n'y avait qu'un seul journal, qui était le journal qui était la parole officielle du régime. Les gens se plaignaient de ça. Mais maintenant, avec le recul, beaucoup se disent que finalement, c'était peut-être un mal nécessaire, puisque ce parti, en 90, a fait l'ouverture démocratique. Donc, il a perdu les élections. Il n'a fait aucune contestation pour lâcher le pouvoir. Je pense qu'ils ont eu l'intelligence d'amener le cas vers une certaine maturation politique. On avait, bien sûr, on avait un partenaire privilégié qui était Cuba. À l'époque, puisque beaucoup de jeunes ont été formés à Cuba pour différents métiers. Médecine, avocat, dans les techniciens moyens, pour l'agriculture notamment, il y a beaucoup de techniciens d'agriculture, et aussi des relations avec l'URSS. Mais aussi le Cap-Vert a cultivé aussi une relation avec les États-Unis, justement pour créer cet équilibre, puisque le Cap-Vert à l'époque se considérait comme un pays non aligné, malgré ces régimes communistes qui étaient en place.
minha grito de voo é só de revolução.
Gritwi Pobo par le groupe Kola, l'un des premiers à utiliser des instruments amplifiés, 1979. Au début des années 80, musicalement, tout change dans l'archipel, avec notamment l'essor des synthétiseurs, instruments qui, selon une légende tenace, auraient atterri dans des circonstances rocambolesques. Selon la dite légende, un jour de 68, un cargo rempli de pianos électriques, d'orgues et de synthétiseurs était parti de Baltimore aux États-Unis à destination de Rio de Janeiro, au Brésil. Sauf que les heures suivantes, le dit cargo aurait disparu des radars. Un naufrage peu probable compte tenu de la météo ce jour-là. Des mois plus tard, on en aurait retrouvé la trace mystérieusement échouée à 5000 km de là, sur l'une des îles du Cap-Vert. L'équipage s'étant volatilisé, on aurait ouvert ses conteneurs et découvert ses instruments que, sur ordre d'Amilcar Cabral, lequel était encore vivant, on aurait stocké dans une église avant de les distribuer équitablement entre les écoles de l'archipel, les rares lieux alors reliés au réseau électrique. L'histoire est un peu rocambolesque, peu probable. Il n'empêche que dans les années 70, les synthétiseurs cosmiques envahissent la musique capverdienne. João Cirilo renouvelle le genre du batuque. Et puis, grâce à la jeune garde de musiciens, le célèbre pianiste de Voz de Cabo Verde, Paulino Vieira, ou bien Pedrinho, ou bien Antonio Sanchez, ces synthés sont incorporés au mornas, au coladeras ou au funana, où ils remplacent l'accordéon. Autre exemple ici, avec le chanteur Querinho do Conto, qui avait quitté l'archipel dès les années 60 pour se produire aux États-Unis et qui, 20 ans plus tard, s'essayait à ces drôles de machines dans ce Mino di Mamma. 1985, Querigno do Canto pour ce Mino di Mamma, dénonciation du pouvoir de l'argent. C'est que malgré l'émancipation politique, les années 80 sont difficiles. Le Cap-Vert est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il survit notamment en faisant quelques compromis. Seul pays d'Afrique à autoriser aux avions sud-africains, on est alors en pleine apartheid, de se poser pour se ravitailler. En 1987, la manne obtenue en retour constitue le tiers de son PIB. Des groupes en exil comme Ostuba Orwes, qu'on entendait tout à l'heure, deviennent les ambassadeurs de la musique capverdienne, laquelle n'intéresse plus que plus seulement la diaspora, mais aussi de nouveaux publics en Italie, à Paris, à Lisbonne, à Rotterdam ou bien à Boston. Sur place politiquement, le parti unique est aboli en 90 et les premières élections libres ont lieu début 91. Peu de temps après, la chanteuse Cesaria Vora, qui était sortie de sa retraite, connaît un succès planétaire avec Saudade qui popularise la morna et replace sur les planisphères mondiaux ce petit pays de 500 000 habitants, mais doté d'une diaspora d'un million d'âmes principalement dispersées aux États-Unis et dans une moindre mesure au Portugal. Ces dernières années, l'archipel a connu une très importante croissance, dopée notamment par le tourisme. Le Cap-Vert est aujourd'hui l'un des pays les plus alphabétisés d'Afrique et les plus démocratiques au monde. Un dernier pour la route, on se quitte sur le groupe Peps Love pour ce Pom un Grogu, autrement dit verse-moi un rhum, enregistré en 1999.
The Don Gospel baby.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Merci pour leur préparation à Lily Cornert pour la documentation historique, à Antoine Vuillose pour la musique, à Hervé Evano pour les archivina. Jukebox se télécharge depuis l'application de Radio France et se réécoute sur le site de France Culture où vous retrouvez la liste des morceaux diffusés, une bibliographie, la possibilité de nous écrire. À la technique aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui et Agnès Katou à la réalisation. Merci à tous deux. Au micro, Amaury Chardot. À dimanche, 15h, pour un prochain Jukebox.
France Culture. L'esprit d'ouverture.